Commencez chaque journée les batteries bien rechargées avec Total Energy et le Brief.
Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous êtes en forme, prêts et prêtes pour votre brief matinal. Nous sommes mardi 4 avril et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le brief de l'Écho.
Aujourd'hui, nous parlerons de la réforme fiscale et nous irons voir les éventuels changements pour les ASBL. Je vous dévoilerai aussi le nombre de fraudes à l'INAMI qui augmente de manière significative par rapport à l'année dernière. Et on décortiquera ensemble à quoi tient cette augmentation. Je suis Sunshine Courrier et vous écoutez le Brief.
Le Brief, cette info dès 7h.
La réforme fiscale n'est pas encore adoptée, mais elle continue d'être décryptée article par article. Ce matin, penchons-nous sur les changements pour les ASBL. Jusqu'ici, l'imposition des associations était réglée par une loi de 1921. Ça datait un peu, c'est sûr. La taxe annuelle de 0,17% sur l'ensemble du patrimoine de l'ASBL sera remplacée par un système progressif, avec un taux de 0,15 à 0,45% à partir de 50 000 euros de patrimoine. Le gouvernement espère ainsi tripler le montant de la taxe actuelle. Sabine Garoy est chargée de cours en droit fiscal de l'ULIEJE. Elle commente ces modifications. Qui seront les gagnants et qui seront les perdants?
On va dire que les gagnantes, ce sont les ASBL ou fondations visées qui ont un patrimoine peu important, donc un patrimoine allant jusqu'à maximum 50 000 euros, puisque là, il n'y aura pas de débition de taxes. Là où, jusqu'à présent, c'est au-delà de 25 000 euros, là, il y a une taxe à payer. Donc, on va du simple au double en termes de montant exonéré. Donc ça, ce sont pour les gagnantes. Par contre, maintenant, pour les perdantes, ce sont celles qui ont un patrimoine plus important, puisqu'on passe vite à un taux... beaucoup plus important que celui qu'on connaît actuellement. Le principe justement de cette taxe, il faut quand même savoir que ça vise également des actifs dormants. Donc par exemple, une ASBL qui garde des fonds pour financer un investissement va être taxée sur ses avoirs chaque année. Donc on taxe les avoirs bruts et ils sont évalués, ça c'est une caractéristique importante, à la valeur vénale qui est la valeur de marché. Donc potentiellement, même une structure qui ne serait pas si grande peut, on va dire, théoriser une manne qui va servir un investissement bien légitime et celle-là va être taxée chaque année.
À noter que les hôpitaux organisés en ASBL bénéficieront d'un régime compensatoire et que les bâtiments scolaires échapperont au calcul du patrimoine des écoles. Carglass reste bien la machine à cash de Dieteren. Belron, la maison mère de Carglass, s'est endettée à hauteur de 800 millions d'euros pour pouvoir fournir un super dividende à ses actionnaires. Il faut dire que Belron génère énormément de cash dans son activité de remplacement de pare-brise. Elle n'a donc aucun mal à emprunter. L'opération devrait rapporter plus de 550 millions d'euros à Dieteren, qui détient un peu plus de la majorité des parts. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Belron finance son actionnaire principal par un super dividende. En 2021, Dieteren avait effectué deux acquisitions grâce à cela. Ce nouvel emprunt devrait sans doute retarder un peu l'IPO, l'introduction en bourse de Belron à New York. Depuis la nomination de Carlos Brito, l'ancien PDG d'AB InBev, au poste de directeur général de Belron, les rumeurs d'une cotation rapide vont bon train. Mais bon, pour ça, Belron devra d'abord réduire son endettement. Le nombre de dossiers a simplement doublé cette année. Je vous parle là du nombre de fraudes à l'INAMI, notre acteur clé de la sécurité sociale. Un peu plus de 80 infractions ont été repérées pour un montant global de 6,7 millions d'euros. Une augmentation assez sensible après deux années de recul. Bonjour Julien Balboni.
Bonjour.
Vous êtes un de nos journalistes judiciaires. À quoi tient cette augmentation très forte ?
Il y aurait plusieurs facteurs envisageables, mais le principal est que l'INAMI et du moins ses services de contrôle ont fait leur petite révolution via la digitalisation. Les services de contrôle de l'INAMI ont perdu de l'effectif, mais ont recruté des analystes de données qui expliquent un petit peu ce nombre de fraudes débusquées qui est en nette augmentation.
Et quel est le mécanisme de ces fraudes ?
Elles ont un point commun, c'est le recours au tiers payant. Alors le tiers payant, qu'est-ce que c'est ? Ça permet au patient de ne pas payer sa prestation devant son médecin. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de contrôle, ce qui fait que le médecin, le pharmacien, le dentiste, l'orthodontiste peut effectuer une fraude qui ne sera pas contrôlée par le patient. Et ça peut amener à cette situation. Le patient n'est absolument pas lésé. L'assuré social, c'est le contribuable qui est lésé dans ce type de fraude.
C'en est bien fini de l'existence de Newbee en tant que banque indépendante. Le projet de banque alternative devient officiellement une agence de la banque flamande VDK, dont elle vendra les produits et les services pour la partie francophone du pays. L'Assemblée générale de la banque coopérative avait acté ce changement d'objectif, mais les clients pouvaient encore choisir de rejoindre le nouveau projet ou de quitter le navire. La majorité des clients de Newbee ont fait le choix de poursuivre l'aventure avec le nouveau partenaire VDK. Sur 28 000 clients de Newbee, 25 000 ont décidé de migrer vers VDK Bank. Ils deviendront donc des clients de VDK qui s'ouvrent ainsi les portes du marché francophone. C'est une votation inédite à Paris. Un peu plus de 100 000 Parisiens ont pris part dimanche à un référendum sur l'avenir des trottinettes dans la capitale française. Alors, 100 000 votants, vous allez me dire, ça ne fait même pas 8% de la population, mais bon, le résultat, en revanche, est sans appel. Quasi tous disent non aux trottinettes électriques en libre service. Paris va donc devenir la première capitale européenne à interdire ces engins qui ont causé plus de 400 accidents, dont 3 mortels l'an dernier. Leur retrait est programmé très bientôt, dès le mois de septembre. C'est une première dans une ville européenne, mais est-ce que cela pourrait en inspirer d'autres ? Qu'en est-il à Bruxelles, où plus de 21 000 trottinettes sont en circulation ? La situation est assez différente si on en croit Marien Jomier, le patron de Dot, un des opérateurs présents chez nous.
Bruxelles est engagée dans une augmentation de la réglementation. On n'est pas engagé aujourd'hui dans une interdiction. Donc l'objectif, c'est vraiment de mettre en place plus de règles, puisqu'on a déjà fait pas mal de choses, hein, la vitesse limitée à 20 km/h, les zones piétonnes. Bah, nous, on s'inscrit totalement dans cette volonté-là. Je pense que c'est toujours plus facile de discuter à 2 ou 3 qu'à 7 ou 8. Donc effectivement, je pense que si on arrive à réduire le nombre d'opérateurs, on réduira mathématiquement le nombre de véhicules, ce qui va alléger la pression et améliorer l'harmonie sur le territoire bruxellois. Et je pense que c'est la direction qu'il faut prendre. Là, la balle est aujourd'hui dans le camp de la ministre. Nous, on a eu l'opportunité, c'est extrêmement positif, d'émettre nos recommandations, de dire ce qu'on en pense, ce qu'on est capable de faire aussi. On a eu l'opportunité d'échanger donc lors de cette première lecture du décret d'application. On attend maintenant la deuxième lecture, la deuxième version du document qui nous en dira beaucoup plus sur ce que Bruxelles compte faire.
À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7.
Voilà
6,
un décompte 5. Qu'on entend de moins en moins, et pour cause, le ciel est particulièrement bouché pour l'Europe spatiale. Déjà, l'arrêt de la collaboration avec la Russie limite une partie des capacités de lancement, et puis surtout, le retard du nouveau lanceur lourd Ariane 6 et des problèmes de la fusée légère Vega C risquent de lui fermer l'accès à l'espace pendant au moins 2 ans, alors que ses carnets de commandes sont pourtant pleins. 6 tirs sur 15 prévus en 2022, 5 seulement en 2023 pour Ariane. Et pendant ce temps-là, SpaceX d'Elon Musk aligne les succès et rafle le marché à raison d'un lancement par semaine. Du coup, André-Hubert Roussel, président exécutif d'Ariane Group, maître d'œuvre de la fusée Ariane 6, est sur un siège éjectable. Parce que les retards pris sur le programme Ariane 6 se répercutent sur toute la filière européenne, comme l'explique Olivier Gosset, notre journaliste aéronautique qui signe l'édito du jour, que vous pouvez d'ailleurs lire en entier sur l'écho.be.
Il est évident que l'Europe va devoir accélérer pour réfléchir à une révision de la filière spatiale européenne, en ce sens que le vieux modèle a probablement vécu, il prévoyait qu'il y ait un retour géographique pour les États qui contribuaient au projet de l'Agence spatiale européenne. À partir du moment où les Européens sont 10 à 15% plus chers systématiquement juste à cause de ce problème-là, il va falloir y remédier. Alors, une deuxième contrainte qui va se poser, c'est que faire avec tous les projets de start-up dans le domaine spatial? Ce sont des projets de micro-lanceurs ou de mini-lanceurs. Et tôt ou tard, se posera la question de savoir est-ce que ces sociétés pourront peut-être concurrencer par le bas les lanceurs d'Arianespace, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, évidemment.
$21 milliards, ce sera la valorisation du nouveau champion du catch qui naîtra de la fusion de deux des plus importants championnats de catch et de free fight aux États-Unis. À ma gauche, WWE, la World Wrestling Entertainment, la plus grande entreprise de catch de lutte professionnelle au monde. Et à ma droite, Indevior, propriétaire de UFC pour Ultimate Fighting Championship. Deux véritables poids lourds du secteur qui cumulent des revenus de plus de $2,4 milliards et une croissance à deux chiffres. Le catch et le WWE sont une machine énorme aux États-Unis, à mi-chemin entre le sport et le spectacle. Ce sport parvient à attirer les foules et remplit des stades entiers. La WrestleMania, l'événement de référence du show américain qui se déroulait ce week-end, a attiré plus de 160 000 spectateurs à Los Angeles. Mais le sport attire aussi des millions de téléspectateurs, surtout. En 2018, Fox avait décroché le contrat pour 5 ans pour, vous entendez bien, $1 milliard. Merci d'avoir écouté Le Brief. Laurent Fabry était à la production du podcast d'aujourd'hui. Si notre brief vous a plu, partagez cet épisode et puis envoyez-nous vos commentaires sur nos réseaux sociaux. Je vous retrouve demain pour un nouveau brief. Bonne journée.
À la recherche d'une solution de recharge pour vos employés, Total Energy lance sa nouvelle carte de recharge. Avec la carte de recharge Charge Plus Business, vous avez accès à plus de 500 000 points de recharge publics en Belgique et dans les pays voisins. Total Energy est votre partenaire pour les solutions de recharge au travail et au domicile de vos employés. Intéressé ? Contactez-nous via evcharge.totalenergy.be.